Vous êtes sur RTL.
Et le journal, c'est avec Aude Vernuccio. Bonsoir Aude.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous.
Et à la une, l'émotion des Français au lendemain de la mort de 3 militaires au Mali.
Et ils étaient nombreux à leur rendre hommage aujourd'hui devant le 1er régiment de chasseurs de Thierville-sur-Meuse. Reportage dans un instant. Également à la une, l'inquiétude de la filière du canard face à la grippe aviaire. Une centaine de communes landaises concernées. Un an après sa fuite rocambolesque du Japon, Carlos Ghosn va devoir répondre aux questions de la justice française. Et puis un hommage ce soir, un visionnaire et designer, le grand couturier Pierre Cardin s'est éteint à l'âge de 98 ans.
Et dans un petit quart d'heure, notre rétro 2020 consacré ce soir au télétravail.
RTL Soir.
Il s'appelle Taneri Maori, Quentin Pochet et Dorian Issakanyan. Trois militaires français ont été tués hier matin en pleine opération militaire au Mali. Tous les trois issus du 1er régiment de chasseurs de Thierville-sur-Meuse, près de Verdun. Toute la journée, des habitants ont tenu à saluer leur mémoire. Reportage de Dimitri Ramelot pour RTL.
Devant la grande grille d'entrée de la caserne, sur l'emblème en pierre du 1er régiment de chasseurs, plusieurs bouquets de fleurs avaient déjà été déposés en milieu de matinée. Impossible pour Jean-Louis, 84 ans, de ne pas venir saluer la mémoire des trois disparus.
Ce matin, avec ma femme, nous avons décidé d'aller chercher trois roses, trois décès, trois roses blanches. Nous sommes tous navrés, catastrophés à Thierville. C'est notre régiment, c'est notre fleuron. Nous venons de passer un joyeux Noël et le lendemain, c'est la tristesse.
Et comme sur celui situé sur le fronton de la mairie, le retraité a mis un drapeau tricolore en berne sur la façade de sa maison. Car tous les habitants connaissent ici un militaire en service ou un ancien soldat.
C'est quand même des gars qu'on voyait, qu'on savait qui vivaient là, quoi. On est dans notre misère, quoi. Ça ne remonte pas le moral. Trois d'un coup, oui, ça fait beaucoup. Hein.
Notre deuxième fils est militaire.
Votre fils était au Mali, c'est ça?
Oui, il y a un an, oui. Malheureusement, ce qui est arrivé, ça aurait pu lui arriver aussi.
Et dans la cour Lyautey, place principale de la caserne, l'étendard a également été abaissé. Les corps des trois camarades sont attendus dans les prochains jours avant le très probable hommage aux Invalides.
Dimitri Ramelot à Thierville-sur-Meuse pour RTL. Au total, ce sont 47 Français qui ont donné leur vie au cours des opérations Serval. Les Barkhane au Sahel.
La grippe aviaire continue de circuler dans les Landes. 100 communes pourraient abattre leurs élevages.
Un arrêté préfectoral a été publié ce matin. Autorisation donnée si un foyer d'infection est détecté et dans un rayon de 3 km. La semaine dernière, 40 000 canards ont été abattus par mesure de prévention et d'autres éleveurs craignent de subir le même sort. Reportage à Chalosse, Juliette Chénion pour RTL.
Pour l'instant, Franck confine ses canards dans sa ferme de Castelnau-Chalos. Il est à moins de 10 km d'un foyer d'infection.
On a mis en gavage ce qu'on pouvait mettre en gavage et puis les autres sont à l'intérieur. Mais bon, et là, on ne sait pas jusqu'à quand.
Sa peur, c'est que ces bêtes partent à l'abattoir à titre préventif.
Nous, on ne produit pas pour envoyer à la benne. On fait des analyses. Si les canards sont porteurs du virus, on les tue. Mais s'ils sont sains, il faut arrêter, quoi.
Mais la maladie se propage très vite, surtout avec la tempête Bella. Les éleveurs ne savent plus quoi faire. C'est la troisième épidémie en 5 ans.
Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont se décourager, il y en a beaucoup qui vont abandonner. Moi, le premier, je me pose beaucoup de questions.
Des questions, Chantal s'en pose aussi à quelques kilomètres de là. Elle a perdu tous ses canards la semaine dernière.
C'est le fruit de notre travail mis à la poubelle en quelques heures. J'étais dans un état vraiment... les larmes qui coulaient, les jambes coupées, et voilà, la gorge nouée.
Les autorités disent tout faire pour éviter le scénario de 2017 avec 500 000 de canards tués. Mais les éleveurs n'y croient pas et se préparent au pire.
Juliette Chénion dans les Landes pour RTL. Le gouvernement va-t-il resserrer la vis en France? Emmanuel Macron a convoqué un nouveau conseil de défense sanitaire ce matin. Les chiffres ne sont pas bons et les admissions en réanimation augmentent à nouveau. Pas d'annonce pour le moment, mais la piste de reconfinement locaux et le renforcement du couvre-feu dans certaines zones a été évoquée. On comptait hier plus de 300 décès en une journée. Olivier Véran, le ministre de la Santé, doit s'exprimer ce soir à 20h à la télévision.
Et dans le même temps, la campagne de vaccination anti-Covid se poursuit dans les maisons de retraite.
Une cinquantaine de personnes âgées se sont vues déjà administrer le produit de Pfizer et BioNTech et l'urgence est bien réelle. Illustration à Mouzon où plus de 60 résidents sur les 70 ont été testés positifs au Covid-19. Pourtant, toutes les mesures de précaution avaient été prises, assure Alain Renard, le maire de Mouzon.
Vraiment, il y a eu un effort très très grand de protection des résidents, avec des familles parfois qui ne pouvaient pas aller embrasser leur grand-mère ou leur père, etc. C'était vraiment avec parcimonie, avec quelques familles, avec prise de rendez-vous au préalable et les gestes barrières étroitement surveillés. Mais le virus est passé malgré toutes les mesures vraiment extrêmes de protection. Et c'est vrai que le personnel maintenant est complètement sur le pont pour isoler d'une part les résidents non touchés et puis veiller de près auprès de ceux qui sont touchés.
Alain Renard, maire de Mouzon dans les Ardennes, joint pour RTL par Sophie Jousselin. A noter que l'Union européenne vient de commander 100 millions de doses supplémentaires du vaccin de Pfizer-BioNTech. Et puis un chiffre record et extrêmement inquiétant. Ce soir, le Royaume-Uni enregistre plus de 53 000 cas de coronavirus en une seule journée, malgré le reconfinement d'une partie de la population.
Ils ont beaucoup souffert en cette année 2020. Après deux confinements, un garagiste sur trois pourrait fermer dans les six mois à venir.
C'est le constat alarmant issu d'une enquête du site Vroomly. Baisse du chiffre d'affaires en raison de la pandémie. Difficulté aussi à percevoir des aides de l'État. Le phénomène est particulièrement marquant dans les zones rurales. Inquiétude d'Élodie Etchard. Elle est propriétaire d'un garage à Étoges dans la Marne.
La plupart des personnes pensent que du fait que nous soyons ouverts, c'est que nous allons bien, ce qui n'est pas le cas. Le simple fait que les gens sont souvent en télétravail, donc ce qui veut dire qu'ils ne se déplacent plus, ils utilisent beaucoup moins leur voiture, donc moins de réparations. Nous sommes en milieu rural, donc on travaille avec 70% de professionnels viticulteurs, agriculteurs. C'est une profession qui a beaucoup souffert en cette période. On a perdu plus de 50% de notre chiffre d'affaires. Nous n'avons aucune aide, aucun soutien vraiment fondamental de la part de l'État pour nous garder en vie ou même en survie, je dirais. Je ne sais pas du tout si je vais pouvoir conserver mon apprenti ou pas.
Des propos recueillis par Christophe Bourreau pour RTL.
Après la pause, Carlos Ghosn bientôt entendu par des juges français à Beyrouth un an après sa fuite rocambolesque depuis le Japon.
RTL Soir.
RTL Soir, Isabelle Choquet.
19h08 sur RTL, le journal d'Aude Vernuccio. Sa fuite à bord d'une malle avait fait les gros titres il y a tout juste un an. Carlos Ghosn va maintenant devoir répondre aux questions des juges français.
L'ex-PDG de Renault, Nissan, avait quitté le Japon précipitamment et dans le plus grand secret le 29 décembre 2019 pour échapper à la justice japonaise. Actuellement, au Liban, il est visé en France par deux enquêtes pour abus de biens sociaux et corruption. Pas d'extradition possible, mais plusieurs juges vont être envoyés à Beyrouth. Thomas Proto, bonsoir.
Bonsoir.
Comment vont se dérouler ces auditions et que risque-t-il exactement ?
Alors, ces auditions prévues mi-janvier vont durer plusieurs jours, 4 ou 5 selon une source judiciaire. Elles auront lieu au palais de justice de Beyrouth, dans le cabinet d'un juge libanais, c'est la règle. Précision importante, Carlos Ghosn sera entendu libre. Il a donné son accord pour répondre aux questions des magistrats français. Et ils en ont beaucoup, notamment sur la possible utilisation à des fins personnelles de quelques 11 millions d'euros via une filiale néerlandaise de Renault-Nissan. En cause des désormais célèbres soirées à Versailles pour l'anniversaire et le mariage de l'ex-PDG en 2014 et 2016, mais aussi de nombreux déplacements privés dans le jet de l'entreprise et des invitations un peu trop généreuses d'amis au Festival de Cannes ou à Rio. Autre volet des enquêtes françaises, deux contrats contestés de plusieurs centaines de milliers d'euros octroyés à la politique et avocate Rachida Dati et au criminologue Alain Bauer en 2010. Alors en théorie, Carlos Ghosn peut être mis en examen à l'issue de ces auditions. Il est d'ailleurs convoqué à cette fin, selon nos informations. Mais cela ne devrait guère changer son quotidien. La convention judiciaire franco-libanaise ne prévoit ni arrestation ni extradition.
Les explications de Thomas Proutot du service police-justice d'RTL. Après des négociations à rallonge, la date est enfin fixée. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, signera officiellement les accords post-Brexit demain matin. Le texte de 1200 pages devra ensuite être acheminé à Londres pour y être signé par le Premier ministre britannique Boris Johnson. Les sports, en bref, Joe Wilfried Tsonga, forfait pour l'Open d'Australie, le tennisman n'est pas en capacité de retourner sur les cours, annonce faite sur Twitter. Le numéro 5 mondial avait déjà manqué Roland Garros en raison d'une blessure au bassin.
Il préférait habiller la rue plutôt que les princesses et les célébrités.
On lui doit aussi les premiers défilés d'hommes, les débuts du prêt-à-porter et 70 ans de carrière. Le couturier Pierre Cardin s'est éteint ce matin à 98 ans à l'hôpital américain de Neuilly-sur-Seine. Pour Jean-Paul Gaultier, Pierre Cardin aura été designer, ambassadeur de la France, académicien et mécène tout au long de sa vie. Jean-Charles de Castelbajac salue lui en visionnaire. Écoutez sur RTL l'hommage de la chanteuse Mireille Mathieu, grande amie du couturier.
1965, je débutais, j'ai fait les Jeux de la Chance et je me produisais sur la scène de l'Olympia, en levée de rideau de Sacha Distel. Pierre est venu, il a demandé donc à mon manager si je pouvais venir chanter un soir pour ses invités. Ce que je fis, mais alors, moi évidemment, je me produisais à 9h30, j'avais fini, vers 10h, 10h30, je dormais. Évidemment, les invités, c'était le tout Paris. Au lieu d'arriver à 11h, c'était minuit, 1h. Et moi, j'étais dans la chambre de Pierre Cardin et je me suis endormie dans son lit. Donc, je connais en tout bien, tout honneur, le lit de Pierre Cardin à ce moment-là. On est devenus très, 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 très amis. En 2019, j'ai chanté pour lui à Lacoste. Vraiment, c'est un de mes plus beaux souvenirs. Il était en pleine forme, plein de souvenirs, mais aussi, il voyait l'avenir. C'est quelqu'un de positif.
Quand vous avez chanté à Lacoste la dernière fois, France Dimanche a titré « Mireille Mathieu retrouve son grand amour de jeunesse,
voilà,
Pierre ».
Exactement, je me souviens de ça. Lui, ça l'a fait beaucoup rire et moi aussi également. Une grande, grande affection, une grande amitié.
Mireille Mathieu, micro RTL d'Isabelle Morini-Bosque.
Merci Aude Vernuccio, à tout à l'heure, 20h. On vous retrouve, Louis Baudin, oui, pour la météo. Demain, il fera encore bien froid, il y aura un petit peu plus de lumière, c'est tout.
Oui, c'est ça. On va essayer de trouver quelques nuances par rapport à aujourd'hui, parce qu'il restera quand même quelques averses, forme de pluie ou de neige, alors principalement autour des reliefs, Pyrénées, près des frontières de l'Est également, de la neige des 300 ou 400 mètres, voire encore une fois jusqu'en plaine, quelques flocons en Alsace, Lorraine, peut-être également au nord de la Seine. Pendant ce temps-là, dans les autres régions en plaine, on aura un temps un peu plus sec avec quelques belles éclaircies, d'ailleurs un peu plus de soleil peut-être l'après-midi, quasiment du centre à l'Île-de-France et au Nord-Pas-de-Calais. Des pluies reviendront déjà sur la Bretagne et puis du vent mais du soleil également sur le littoral méditerranéen. Ça n'empêchera pas quelques averses en Corse. Et puis côté température, demain matin les gelées seront plus fréquentes, hein. On sera souvent entre moins 1 et 0 degrés. Et l'après-midi, pas plus de 3 à 7 degrés dans la moitié nord, 7 à 9 degrés dans la moitié sud et un peu plus de 10 degrés parfois près de la Méditerranée.
Merci Louis Baudin, bonne soirée à vous. Dans un instant la rétro 2020, l'année du télétravail. À tout de suite.